Et au menu de notre club cet après-midi, les 20 ans de mécénat chirurgie cardiaque, notre rapport au virtuel avec les selfies et la vie d'un explorateur au Groenland. Je vous présente mes invités dans un instant. Pour la première fois, des chercheurs viennent de démontrer qu'un organisme unicellulaire était capable d'apprentissage, vous entendez bien. Et c'est à la une de la science, Axel Villard, bonjour.
Bonjour, une découverte très importante Mathieu, et un organisme passionnant, Physarum polycéphalum, appelé aussi le BLOP. On vous le présente dans un instant à la une.
On a hâte de faire connaissance avec le BLOP. C'est Céline Hila qui réalise ce club, préparé aujourd'hui par Emmanuel Fournier, avec Dylan Beiner.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
On va donc soigner des cœurs, on va s'identifier aux selfies, puis on va vous parler de la vie au Groenland, les sujets donc de ce club. Je salue mes invités, le professeur Francine Leca, la journaliste Brigitte Emerlin-Petitgan, la philosophe et psychanalyste Elsa Godard et l'explorateur Nicolas Dubreuil. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue Francine Leca, vous fêtez donc les 20 ans de votre association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 2600 enfants ont été opérés du cœur grâce à vous. C'est 20 ans de voyage, 20 ans d'émotions, 20 ans parfois d'obstacles, mais surtout des vies sauvées. C'est incroyable, ces 20 années passées quand même. Hein.
Oui, très belles années. Mais quand vous dites que j'ai opéré, non, c'est tout un groupe de chirurgiens, bien sûr, dans différents hôpitaux en France, on en reparlera sans doute tout
bien
à l'heure,
sûr, oui.
Qui ont pris en charge ces enfants et qui leur ont assuré le meilleur de la chirurgie cardiaque. Parce qu'on ne plaisante pas avec un cœur d'enfant, on ne le bricole pas, il faut le réparer au mieux.
Brigitte Emelin-Petitgan, vous consacrez donc un livre à Francine Leca, mais bien sûr à ses enfants qui ont pu être opérés grâce à l'association. Je dirais que c'est un ouvrage sur la mobilisation et la générosité surtout, vous êtes d'accord avec ça?
C'est aussi un livre sur le courage de tous ces enfants et le professionnalisme des équipes de mécénat chirurgie cardiaque qui entourent Francine Leca.
Ouais.
Et c'est un livre que j'ai souhaité être porteur d'espoir, ce qui n'est pas courant par les temps qui courent.
Francine Leca, Soigner les cœurs, donc est publié chez Kéro. Nicolas Dubreuil, vous avez à votre actif plus d'une centaine d'expéditions polaires, vous avez même une maison au Groenland. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux lorsque vous revenez dans votre pays d'adoption, là, pour le coup?
Quand je reviens au Groenland, ouais. Ce qui me rend le plus heureux, tout. Je veux dire, surtout, ce qui est le plus frappant, je pense que c'est de retrouver l'humanité. C'est-à-dire que là-bas, c'est de la glace, les paysages sont vides, en quelque sorte. Et donc, l'humanité prend tout son sens. Et
ouais.
C'est ça qui est, les rapports humains, je pense que c'est ça qui est le plus beau.
Bon, vous verrez autour de cette table, on est assez humain aussi, ça va bien se passer.
J'espère.
Et vous publiez Akago, ma vie au Groenland, aux éditions Robert Laffont. Elsa Godard, vous vous êtes penchée sur ce phénomène que représente le selfie. C'est une vraie révolution sociale et culturelle, hein, ce
oui,
qui se passe.
Oui, absolument.
Ouais.
Et qui, justement, vous parlez des relations humaines, qui questionnent et interrogent nos relations interpersonnelles et subjective aussi.
Et notre identité, on va en parler beaucoup.
Absolument.
Avec vous. Je selfie donc, je suis les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel chez Albin Michel. On va se retrouver donc tous ensemble dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Physarum polycéphalum, cet organisme primitif, jaune et visqueux, composé d'une seule cellule et donc capable d'apprendre et de mémoriser. Il méritait la une de la science aujourd'hui. Voilà, on imagine cet organisme unicellulaire en train de chanter « Je veux apprendre ». En ligne avec nous pour nous en parler depuis les îles Galapagos, ce qui va expliquer ce petit décalage que vous allez entendre pendant notre conversation. Audrey Dussutour, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on entend bien le décalage effectivement, donc on va s'y faire. Vous êtes éthologiste au centre de recherche du CNRS sur la cognition animale et vous publiez donc ces résultats étonnants sur la capacité d'apprentissage donc du protiste Physarum. Présentez-nous d'abord cet être vivant très étrange que vous appelez, je crois, entre vous le BLOP, c'est bien ça?
Oui, on l'appelle le Blob en référence à un film des années 50 avec Steve McQueen. Donc, Physarum polycéphalum, c'est un protiste, c'est donc un organisme unicellulaire qui est à l'origine des plantes, des animaux et des champignons. Et donc, c'est un organisme qui est toujours entre échelles, puisqu'il est à la fois un animal, un champignon, une plante, il est à la fois unicellulaire et multicellulaire, donc c'est un organisme entre échelles.
Et qu'est-ce que vous lui avez fait faire à ce blob pour démontrer qu'il était capable d'apprendre?
Alors, pour démontrer que le blob était capable d'apprendre, il fallait penser comme un blob. Et donc, on a modifié des protocoles qui sont utilisés habituellement chez les souris ou chez les insectes. Et donc, le blob, dans l'expérience, devait traverser un petit pont pour rejoindre une source de nourriture. Et sur ce petit pont, on mettait soit une substance amère, soit rien. Et donc, au fil des jours, on voyait que le blob apprenait à ignorer la substance amère et qu'il était aussi capable d'oublier cette substance amère si on l'enlevait pendant quelques jours, et que cet apprentissage était spécifique, puisque si on utilisait une substance amère différente, il était capable, en fait, d'être repoussé. Donc, il y avait vraiment ce que nous, on définit un phénomène d'habituation.
La substance amère dont vous parlez, c'était de la quinine, en l'occurrence ?
De la quinine et de la caféine pour tester la spécificité.
Alors, un être qui n'a ni cerveau ni neurones, est-ce que vous avez pu toucher du doigt la manière dont il apprenait ?
Non, pas encore. Ce sont des recherches qui vont être en cours. Alors, on a bien sûr des hypothèses. On pense qu'il adapte peut-être son nombre de récepteurs sur sa membrane, ou peut-être aussi il y a des facteurs épigénétiques qui rentrent en jeu. Mais pour l'instant, ça reste que des hypothèses.
André Dussutour, ce blob-là dont vous parlez, on le trouve où exactement ? Parce qu'on peut le croiser, je crois, même dans la nature près de chez nous.
Oui, bien sûr, on le trouve beaucoup dans les forêts tempérées. Alors, les gens le confondent souvent avec des lichens, parce qu'il a une couleur jaune et il ressemble un petit peu à un lichen. Il faut le chercher dans la litière, puisqu'il se cache, parce qu'il n'aime pas du tout la lumière. Mais il faut savoir qu'il est facile à trouver, puisqu'il fait parfois plusieurs mètres carrés.
C'est la première fois que vous mettez en évidence cette capacité chez un unicellulaire. Pourquoi est-ce que c'est si important ?
Alors, c'est important parce que la plupart des gens pensent que pour apprendre, il faut un système nerveux, pas forcément un cerveau, mais au moins des neurones, au moins plusieurs cellules. Et là, on est dans un cas où on a une cellule unique. Donc, en fait, l'information doit se distribuer au sein de la cellule. Donc, il y a une mémoire dans cette cellule. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Est-ce que ce blob est capable d'apprendre et de transmettre ses connaissances à d'autres générations après lui de cellules ?
Alors ça, c'est une expérience qu'on va publier, j'espère, prochainement. On a réussi en laboratoire à transmettre l'information d'un blob à l'autre, puisque ces blobs, en fait, s'ils sont du même clone originel, ont la capacité de fusionner, de former de nouveaux organismes. Et donc, au laboratoire, nous avons appris à un blob et nous avons fait fusionner ce blob à un blob naïf. Et le résultat de la fusion a retenu, en fait, l'apprentissage.
Ouais. Ce blob a l'air très étonnant. Est-ce qu'il a d'autres capacités comme celle-ci hors du commun ?
Alors oui, avant on avait montré que le blob est capable de balancer son régime alimentaire de manière assez spectaculaire. On avait aussi également montré qu'il est capable d'éviter des pièges, puisque quand il se déplace, il laisse derrière lui du mucus qu'il utilise en fait pour explorer son environnement de manière optimale. Donc en fait, il sait explorer un environnement vraiment... C'est assez impressionnant. On avait testé des expériences de robotique sur le blob et qui était plus intelligent que certains robots.
Audrey Dussutour, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres organismes soient capables de la même chose, d'apprentissage ? Je sais pas, je pense aux virus par exemple.
Alors les virus, bon, il y a peut-être des hypothèses, mais surtout je pense que l'étape d'après serait plutôt les bactéries. Je pense que les bactéries sont capables d'apprentissage. Il y a déjà des gens qui ont montré des phénomènes d'adaptation qui ressemblent à de l'apprentissage chez les bactéries. Donc à mon avis, je ne serais pas surprise si quelqu'un montrait l'apprentissage chez les bactéries.
Cet organisme est très primitif, il est à l'origine de toutes les branches du vivant. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur l'histoire de l'apprentissage dans l'histoire du vivant ?
Oui, je pense qu'en fait, on a toujours pensé que l'apprentissage est arrivé avec les systèmes nerveux. Et je pense qu'en fait, l'apprentissage est arrivé plutôt avec la cellule elle-même. Et c'est juste développé avec les systèmes nerveux. Mais je pense que l'apprentissage était là dès le départ.
Voilà, en tout cas, on souhaitait...
Et donc, c'est là, à mon avis, dans ces organismes-là qu'il faut l'étudier.
On souhaitait évidemment se faire l'écho de cette découverte étonnante sur l'apprentissage donc d'un organisme unicellulaire, le protiste Physarum, ou le blob, dans le laboratoire d'Audrey Dussutour. Vous étiez donc en direct des îles Galapagos pour nous en parler. Merci beaucoup à vous pour vos explications, publication qui est sortie cette semaine. Merci Axel, bon week-end.
Merci, à lundi matin.
Et à la semaine prochaine. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, connaissez-vous l'effet première nuit? C'est lorsque nous dormons mal dans un endroit qui ne nous est pas familier. Eh bien, une étude publiée dans la revue Current Biology nous apprend que lors de ces nuits agitées, nos deux hémisphères du cerveau humain fonctionnent différemment. Le côté gauche semble dormir moins profondément que le droit et serait plus réactif au bruit ainsi qu'aux stimuli extérieurs. Dans un environnement qui pourrait lui sembler hostile, la partie gauche de notre cerveau sera donc prête à réagir quelle que soit la menace. Un phénomène très passager qui, selon les chercheurs, s'estompe dès la deuxième nuit. Le câlin ne serait pas rassurant pour nos amis canidés. Un article publié dans la revue Psychology Today affirme que câliner son chien lui procurait plus de stress qu'autre chose. Après avoir observé plus de 250 photos de chiens enlacés dans les bras d'une personne, 81% de ces animaux montraient des signes d'anxiété et d'inconfort. Le chien peut même ressentir le câlin comme une forme d'agression, montrer les dents, voire mordre. Cependant, plus le lien d'attachement entre un chien et son maître est fort, et plus l'animal acceptera l'étreinte et y prendra du plaisir. Et puis, comment fêter la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule? Eh bien, par un magnifique feu d'artifice. Au moment exact où un spermatozoïde pénètre un œuf, eh bien, celui-ci libère des milliards d'atomes de zinc à sa surface sous forme d'étincelles. Des scientifiques de l'Université de Chicago ont filmé le processus grâce à la microscopie à fluorescence. Il pourrait aider les médecins à identifier les œufs viables pour la fécondation in vitro. Vous pouvez même retrouver cette vidéo sur notre page Facebook. Allez, le club dans un instant avec mes invités. Ce sera juste après The Specials. Message to you ready avec The Special sur France Inter.
La tête au carré. Le club sur France Inter.
Dans notre club aujourd'hui, les 20 ans de mécénat chirurgie cardiaque, la métamorphose de l'identité avec le selfie et la vie d'un explorateur au Groenland. Mes invités, donc le professeur de chirurgie cardiaque Francine Leca, l'écrivain journaliste Brigitte et Merlin Petitgan, la philosophe et psychanalyste Elsa Godard et l'explorateur Nicolas Dubreuil. J'attends bien sûr vos messages sur le site de l'émission franceinter.fr et puis sur les réseaux sociaux avec le mot-clé la TAC. Francine Leca, Soigner les cœurs, donc c'est un livre que vous signez, Brigitte et Merlin Petitgan. Il sort aux éditions Kéro. Alors on y croise des portraits d'enfants du monde entier ayant bénéficié d'opérations du cœur et puis donc la figure de Francine Leca, professeure de chirurgie cardiaque, cofondatrice de cette association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous êtes famille d'accueil justement pour l'association Brigitte et Merlin Petitgan. C'est comme ça que vous avez rencontré Francine Leca?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Je suis famille d'accueil depuis, je vais pas le dire parce que ça va tous nous donner un coup de vieux, enfin très longtemps. Et j'ai rencontré Francine comme ça, au hasard des consultations avec les enfants qui sont venus chez nous, enfin chez mon mari et chez moi. Et puis j'ai eu l'idée, au bout de très longues années, j'ai commencé à avoir l'idée de ce livre. Pourquoi ? Pour raconter les histoires, parce que Mécénat, c'est chaque histoire est comme un roman policier. C'est est-ce que l'enfant
va
être diagnostiqué ? Oui. Est-ce qu'il va pouvoir venir ? Est-ce qu'il va avoir son passeport ? Oui. Est-ce qu'il va avoir son visa ? Est-ce que une fois qu'il est arrivé, il va survivre au voyage en avion ? Est-ce que il va pouvoir être opéré ? Parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. Est-ce qu'il va survivre à l'opération ? Est-ce qu'il va se rétablir ? Et puis ça, c'est la seule chose qui est toujours immuable. Il va rentrer chez lui. Ouais. Voilà. Mais c'est cette espèce de suspense comme ça que j'ai voulu rendre dans ce livre avec tout ce que j'ai pu voir à Mécénat même, où les équipes sont juste formidables. Ils accompagnent les familles d'accueil, mes mains dans la main. Et aussi dans les hôpitaux où les médecins, les chirurgiens, les infirmières sont juste formidables aussi avec le centre de convalescence des côtes. Et ces enfants, pour la première fois de leur vie, je pense, sont traités comme des petits princes. Jamais ils l'ont été parce que ces enfants, ils sont nés dans des endroits complètement misérables. Et ils ont une vie, franchement, vraiment pas brillante. Ils peuvent pas rire, ils peuvent pas courir, ils peuvent pas jouer. Puis tout d'un coup, c'est comme si on arrosait une plante. La plante se met à grandir en l'espèce de 3 semaines. Et puis ils sont métamorphosés et c'est des enfants normaux. Voilà. Quand je dis normaux, ça veut dire en pleine santé. Et ça, c'est Francine Leca qui est à l'origine de tout ça.
Et c'était l'occasion de ses 20 ans, justement,
oui,
pour en parler. Francine Leca, il paraît d'abord qu'il a fallu vous convaincre pour mettre votre nom sur la couverture du livre.
Bah oui,
c'est incroyable quand même.
C'est Brigitte qui l'a écrit, je voyais absolument pas pourquoi j'étais sur la couverture. Bon, enfin.
Vous avez quand même accepté pour l'association, évidemment.
voilà. Et en résumé, enfin Brigitte a tout dit, c'est vrai qu'on a fondé l'association il y a 20 ans avec mon filleul, Patrice Roinette.
Oui, c'est vrai.
Tout d'un coup, on a dit, allez, il faut y aller. Pourquoi ? Quel était le primum movens ? C'est que la chirurgie cardiaque de l'enfant, c'est un miracle. C'est un vrai miracle. C'est-à-dire, vous avez un enfant, comme l'a dit Brigitte, qui vit malheureusement, qui peut pas bouger, qui peut pas courir, qui est en très mauvais état. Il va passer 3 ou 4 heures sur une table d'opération et il repart dans la vie.
Oui, c'est aussi miraculeux que ça, quasiment.
C'est-à-dire
que vraiment, avec toutes les difficultés qui ont précédé cette opération, et puis comme ça, en 3-4 heures, ça y est, c'est reparti.
Oui, je crois qu'on peut utiliser ce mot de miracle. Un de nos amis a dit, c'est une seconde naissance, et c'est souvent le cas.
Ouais.
Et c'est ça qui est évidemment formidable.
Ouais.
L'écueil, c'est que il faut les faire venir, c'est pas très dur. Il faut trouver des familles d'accueil, on en trouve des merveilleuses.
On va en parler, bien sûr.
On va en parler parce que ça, c'est clé dans l'association.
Ouais.
Mais on arrive toujours à ce constat terrible, c'est qu'il faut de l'argent parce que il faut payer les hôpitaux, bien sûr.
Ouais. Alors une opération, ça coûte quoi ? 15 000 euros à peu près, c'est ça ? Tout compris, hein, on va dire.
Poser la question à la sécurité sociale, c'est plutôt proche de 30 40 000. C'est très très cher la chirurgie cardiaque.
Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si cher ?
Ben voilà, je donne un exemple parmi beaucoup d'autres. Dans une salle d'opération de chirurgie cardiaque, vous avez une dizaine de personnes. Et vous savez qu'en médecine et en chirurgie, ce qui coûte cher, c'est, on dit toujours le matériel, mais c'est pas ça.
C'est les hommes.
Ce sont les hommes et les femmes, bien sûr.
Cette histoire a commencé avec une lettre venue d'Iran. Hein, c'était en 1995, et cette lettre vraiment vous a décidé à monter l'association. C'était un papa qui vous écrivait pour son
petit
enfant.
Mais oui, un enfant que l'on pouvait guérir parce que en France on a une bonne chirurgie, qu'on en avait tout à fait les capacités, et c'était encore une fois le fait de ne pas pouvoir payer l'hôpital qui était l'obstacle.
Oui.
Et ça a été effectivement un des éléments déclenchants. On s'est dit c'est quand même insupportable. L'argent, nous savons tous qu'il y en a. Bon, le tout, c'est d'aller le chercher, de le provoquer. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte à quel point les gens étaient généreux, finalement. Moi, depuis cette association, j'ai touché du doigt le très beau côté de l'humanité. Je peux vous dire qu'il est formidable. La générosité des familles, vous en reparlerez, mais aussi la générosité des donateurs. Et c'est grâce à tous ces gens-là, c'est une vraie chaîne, qu'on a pu opérer à ce jour 2700 enfants. Mais si vous saviez combien sont en attente, Dans le bureau, c'est des dossiers, et on est très malheureux de dire, ben, on ne peut pas le prendre maintenant, il n'y a plus de place, peut-être en 2017, et ça nous,
Comment on fait le choix finalement de ces enfants qui viennent du monde entier? Parce qu'il y a plusieurs étapes clés autour de la prise en charge. D'abord, il faut identifier les malades donc directement sur le pays. Donc, vous avez des médecins référents?
Oui, absolument, parce que depuis 10 ans, on a créé une bourse de formation, c'est-à-dire que on forme des cardiopédiatres. Vous savez que la cardiopédiatrie est une spécialité dans la spécialité. Donc, on forme des cardiologues ou des pédiatres qui viennent pendant un mois en France se former à cette cardiologie très particulière, et quand ils repartent chez eux, ce sont eux, aujourd'hui, qui nous envoient la plupart des enfants. Alors ensuite, on reçoit des dossiers, on étudie les dossiers, bien sûr, une petite équipe médicale étudie les dossiers, au fur et à mesure de leur arrivée, avec de temps en temps, quand mon assistante dit « Oh là là, j'ai l'impression que celui-là, il est très très urgent », bon, on le fait passer un peu sur le haut de la pile. Mais globalement, c'est au fil et à mesure des arrivées.
Ouais. Il y a beaucoup de demandes spontanées de la part de parents, justement, qui connaissent l'association, qui vous envoient un petit mot.
Oui, c'est le bouche à oreille, bien sûr. Il y a maintenant pas mal de demandes spontanées.
Brigitte Emmerlin Petitgand, alors justement, dans toutes ces étapes, la famille d'accueil a joué un rôle absolument essentiel avant l'opération, et puis pendant la période de convalescence aussi?
Mais oui, avant, parce qu'on va chercher les enfants à l'aéroport. Donc en général, ils arrivent, ils sont pas bien du tout. Ensuite, on les garde à la maison jusqu'à ce qu'ils puissent être opérés, ce qui parfois peut prendre une quinzaine de jours. Mmh. Ils arrivent pas toujours en bon état, mais ne serait-ce que nez, oreilles, etc. Bon, voilà. Et puis ensuite, on les récupère une fois qu'ils ont été opérés. Et là commence la partie la plus intéressante pour les familles d'accueil, parce que ce sont des enfants qui sont en meilleure santé, puis en très bonne santé. Ouais. Et quand on les renvoie, ils sont en excellente santé et la famille d'accueil est carrément épuisée.
Voilà. Mais c'est quand même une sacrée responsabilité que d'accueillir un petit bout de chou. Il y en a qui ont quoi, 18 mois à peine.
Alors c'est une responsabilité merveilleuse. Alors il faut savoir quand même que...
Oui, merveilleuse, mais c'est une lourde responsabilité.
On a à notre disposition un numéro d'urgence qu'on peut appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, jour férié compris, c'est l'équivalent du 15. Et les responsables de mécénat sont à nos côtés dans toutes les étapes. On a toujours un interlocuteur. C'est une responsabilité, c'est une chance, c'est un vrai bonheur.
Mais les familles sont formées ou pas pour accueillir un enfant qui est dans une pathologie cardiaque?
Elles ont deux entretiens et elles sont formées de manière rudimentaire, je dirais.
Non, madame, c'est le cas. Vous avez donné quelques conférences. Formées, non.
Parce que je pense à toutes les familles qui nous écoutent, qui peut-être aimeraient vous aider.
Je vais vous dire, il faut déjà qu'elles en aient envie. Quand elles en ont envie, elles viennent vers nous. À ce moment-là, on a une longue conversation, n'est-ce pas Brigitte, où on leur explique tout, le maximum, elles posent des questions, on leur explique. Et ensuite, elles rentrent à la maison, elles réfléchissent. C'est elles-mêmes qui nous rappellent. Si elles nous rappellent, on les fait venir effectivement une deuxième fois pour aller un peu plus loin dans l'explication médicale. D'ailleurs, elles auront un choix de l'âge de l'enfant et puis de la gravité de la pathologie. On les cote en gravité. Et ensuite, elles repartent chez elles. Et une troisième fois, si elles rappellent, c'est qu'elles ont réfléchi, elles sont en possession des données du problème, elles acceptent et on les met sur la liste. Et quand on a une arrivée d'enfants, on leur donne la liste et elles choisissent les enfants aux époques qui leur conviennent. Enfin, évidemment, c'est un choix. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que c'est une grosse responsabilité, infiniment de générosité, parce que les enfants sont très souvent absolument adorables, mais parfois difficiles aussi, qui a l'angoisse de la chirurgie, parce que nous opérons des enfants souvent qui ont des pathologies très sévères. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour toutes ces familles. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté
sur la couverture.
Que Brigitte mette ma tête sur la couverture de son livre.
Et d'ailleurs, tous les fonds, tout ce que vous récoltez autour de ce livre sont reversés évidemment intégralement à l'association. Il faut le préciser. Est-ce que ces enfants sont accompagnés par l'un de leurs parents ou pas?
Non. Alors ça, c'est
ils sont tous
la
seuls,
question
même
essentielle.
Même des petits bouts de chou de 18 mois.
Alors je cite évidemment notre association fétiche Aviation Sans Frontières. C'est eux qui vont chercher les enfants. C'est des gens formidables aussi. Vous savez, on pourrait en parler des heures de tous les gens formidables
c'est
qu'on rencontre.
Oui, alors en fait, les enfants sont extrêmement adaptables. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des enfants vraiment de tous les âges, des tout petits, des adolescents, des intermédiaires, et ils s'adaptent d'une manière vraiment incroyable en très peu de temps. Alors certains sont effectivement plus difficiles que d'autres. Bon, mais ça c'est le lot de tous les enfants. Mais en règle générale, non seulement ils apprennent le français à vitesse grand V, mais en plus ils s'attachent de manière incroyable à leur famille d'accueil et réciproquement. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand je disais que c'était une aventure, on avance main dans la main pendant 2 mois et on leur fait passer toutes ces étapes qui sont difficiles. Et vous disiez que c'était une responsabilité, qu'il pouvait se passer quelque chose de pas bien. Ils peuvent, effectivement, ça peut se passer. Mais de toute façon, ces enfants, quand ils sont chez eux, ils sont condamnés à mort. Donc si on les fait venir, c'est que c'est une chance. Donc s'ils vont pas jusqu'au bout du chemin, au moins ils auront eu la chance de venir, au moins on aura essayé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur. C'est vrai qu'il y a des familles qui ont perdu des enfants. Moi-même, j'ai un des enfants que j'ai accueilli qui n'a pas survécu. Ça m'a donné un chagrin épouvantable, mais en même temps j'en ai pris d'autres après, parce que si je les prends pas, si les familles les prennent pas, ils restent là-bas et là-bas ils meurent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand j'assistais aux consultations de Mme Leca pour ce livre, c'est vrai que parfois, il y a des enfants, ils sont tellement limites qu'on se dit qu'ils vont mourir dans l'avion. Eh bien, moi, ce que je disais, mais c'est peut-être un peu jusqu'au boutiste, elle est beaucoup plus raisonnable que moi parfois, c'est bien qu'ils meurent dans l'avion, parce qu'au moins, ils auront pris l'avion. Et c'est pareil au niveau des fonds à récolter. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si les fonds, enfin les droits d'auteur de ce livre sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est parce qu'il y a des dizaines d'enfants qui attendent et c'est juste une question d'argent. Voilà, juste ça. Il manque une liasse de billets pour que le petit tartempion qui est de l'autre côté en Afrique avec ses parents qui pleurent et sa maman qui le regarde agoniser et qui, s'il était en France, aurait été opéré il y a longtemps, quand il était tout petit et qu'il serait en pleine forme, puisse venir. Voilà. Alors 12 000 euros, 13 000 euros, 15 000 euros, c'est beaucoup, mais finalement, c'est pas grand-chose.
Bon, en tout cas, il y a des histoires extrêmement touchantes dans cet ouvrage. Il y a celle de cette petite fille, enfin cette jeune fille de 21 ans du Tadjikistan qui vivait à 4 000 mètres d'altitude, c'est ça, dans son village. Et puis un jour, il y a un Français qui débarque là-dedans, un peu comme Nicolas Dubreuil au Groenland, vous voyez.
Oui,
il est au volant de son 4x4 et puis il prend connaissance du problème cardiaque de cet enfant. Oui. Et donc, elle va pouvoir venir en France.
Ouais. Il l'a fait venir, l'association lui a demandé, mais qui va payer le billet d'avion? Il s'est pas démonté. Il est allé voir la mairie des Deux Alpes, qui a mis en vente un œuf de télécabine, 3500 euros. La petite est venue, et elle a été, je crois, opérée. En plus, on lui a refait les dents. Donc, elle est repartie,
Ah oui, il faut qu'elle reparte nickel. Hein.
Nicolas Dubreuil, comment on fait au Groenland? Parce que vous vivez, on va le voir, dans un village extrêmement isolé. Il faut prendre 4 avions pour arriver chez vous, c'est extrêmement long. Les gens qui ont de graves pathologies, comment elles se font opérer?
En fait, alors c'est très très bien fait par les Danois, c'est-à-dire que chaque petit village, même des villages de 30 habitants, il y a toujours un représentant de la santé. Alors le problème, c'est que plus le village est petit, plus un représentant, ça peut être quelqu'un qui simplement est déjà allé à l'hôpital, c'est tout. Mais sinon, majoritairement, ils sont envoyés à Nuuk, la capitale, et puis s'il y a des pathologies qui sont plus graves, ils sont envoyés à Reykjavik, en Islande, en général, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, ou à Copenhague, au Canada. Malheureusement, pour certains villages, par exemple comme le mien, qui peut rester isolé pendant des fois un mois, où on n'a aucune possibilité d'accès, que ce soit en traîneau, skidou, enfin il n'y a rien, aucun hélicoptère qui peut venir. Évidemment, un problème de ce genre-là, mais je pense pas que ce genre de problème survienne.
Non, on a le temps. En général, on a quand même le temps de faire le diagnostic avant. Non, ça ne se pose pas pour les enfants en situation d'urgence. Ou alors, si c'est la situation d'urgence, c'est des malformations tellement graves que, de toute façon, ils vont mourir avant qu'on les transporte. Donc, ne soyez pas trop inquiets.
Bon, d'accord. Mais je peux faire famille d'accueil, mais bon, c'est un peu
attendez,
loin.
Attendez, faites attention, parce que je vais prendre vos coordonnées à la fin de l'émission.
Ah ben là, c'est quand tu veux. Là, je viens d'avoir une petite fille. Donc, si ce que tu viens de dire là, extrêmement touchant, extrêmement à entendre. Donc, évidemment, ça donne envie.
Francine Leca, vous avez été la première femme chirurgienne cardiaque en France. Vous opérez toujours aujourd'hui?
Un petit peu. Modestement.
Oui, mais c'est votre passion.
Oui, bien sûr.
Donc vous continuez.
Ce qui est passionnant, c'est de voir arriver un enfant malade et repartir un enfant guéri, selon un des slogans de l'association. Ouais. Je le trouve tellement...
On peut vous aider en tout cas, et puis retrouver l'actualité de Mécénat Chirurgie Cardiaque en allant sur le site mécénat-cardiaque.org, et puis donc ce livre, Soigner les cœurs, aux éditions Kero.
Un bon gré-gré, ouh là là, t'as besoin d'un bon gré-gré. mis mon amour à la vie, à la mort. Elle m'a sauvé la mise, épargnée de la crise et je l'adore. Dans ses accords, la magie que j'élabore, du fond de la forme, elle agit, tout le monde est d'accord. Et vu comment le mal s'amplifie, je n'avais pas vocation qu'on me plante ici. Y'a eu des éraflures, j'ai fait un bon petit tri. Et comme martyr, j'ai pris mon bon guéri. Je fais du spiritisme en invoquant moi-même mon esprit. Cède au magnétisme des sirènes quand elles sont sexy. Y'a des tables qui bougent, y'a des chaises qui volent, les chakras s'ouvrent à leur maximum. Dans Paname, je suis un bon titi, équipé quoi qu'il advienne d'un bon gré-gré. Un bon gré-gré contre toi, un bon gré-gré. Un bon gré-gré.
Oulala, t'as besoin d'un bon gré-gré.
Un bon gré-gré.
Un bon gré-gré avec toi, un bon gré-gré.
Un bon gré-gré.
Oulala, t'as besoin. Dans tes yeux, je suis chaud, bon gré-gré. Dans mes bras, tu brûles.
Bon gré-gré,
j'ai le feu au cul, oui.
Bon gré-gré,
l'amour m'incendie.
Moi aussi, bon gré-gré.
Oh, je ne suis que cendre.
Bon gré-gré,
rien à foutre de rien.
Non, bon gré-gré,
elle me protège tout comme un.
Bon gré-gré,
l'amour m'incendie.
Yeah, yeah, mystic-crick, yeah, mystic-crack. J'ai un gris-gris dans le fond du sac qui bon mystifie, gré-gré. Qui donne des claques aux scientifiques et profs de fac. Les plus bon cartésiens n'y captent rien. T'as pas ton gris-gris, je te prête pas le mien. Je te bon présenterai gré-gré. Deux, trois potes maliens. Tu leur lances un truc dessus, ça revient.
À Paname,
tranquille,
on se balade.
Bon gré-gré.
SDF en Gucci,
CRS en Lagerfeld.
On passe,
relax,
entre les balles.
Hey.
JPH,
Arthur Manova.
Ouh.
Ça c'est du bon gré-gré.
Aujourd'hui plus qu'hier, on a besoin d'un,
on a besoin d'un bon gré-gré.
Paratonnerre, anticyclone ou bien,
ou bien bon gré-gré.
Un abri antinucléaire fait l'affaire.
Fait l'affaire, un bon gré-gré.
Pour vivre heureux, restons secrets.
Ok, bon gré-gré.
On passe entre les gouttes,
même pas mouillé.
On rigole sous les matraques,
même pas mal.
Même pas peur que le ciel nous tombe sur la tête,
parce qu'il est déjà tombé.
Arthur H et JP Manova avec Bon Gris-Gris à l'instant.
Le club au carré sur France Inter.
Elsa Godard, vous êtes philosophe et psychanalyste, chercheur associé en philosophie à l'université Paris-Est et vous publiez « Je selfie donc je suis, les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel ». C'est aux éditions Albin Michel. Alors comme tout le monde, vous n'avez pas échappé au phénomène selfie, c'est même comme ça que votre histoire a commencé, c'est ce que vous racontez.
J'avais un ami qui...
Vous êtes une selfeuse.
J'irai pas jusqu'à là, mais disons que effectivement, j'avais des moments de corruption intellectuelle, on va dire.
Ah, vous appelez ça une corruption intellectuelle, bon.
Je plaisante, l'autodérision, ça fait du bien après ouais. Des sujets aussi lourds et importants qu'on vient d'entendre. Disons que oui, effectivement, je m'amusais à faire des selfies de temps à autre, et j'ai un ami qui, toi, philosophe, psychanalyste, comment tu peux t'amuser à faire des choses pareilles? C'est pas sérieux. T'as un problème d'image, c'est quoi? T'as un problème d'ego? Je dis mais ça n'a rien à voir avec ça. Et je l'ai pris au jeu. Littéralement au jeu, au bout de 220 pages, ouais. Voilà ce qu'il en a résulté.
Il y a quand même un petit problème d'ego quand même. Hein.
Il y a, d'ailleurs, le terme au Québec, on parle d'ego portrait, donc ça veut tout dire.
Hein. C'est très joli d'ailleurs comme terme,
je trouve aussi.
L'ego portrait. Donc ce qui fait que vous avez eu envie d'en savoir plus, sur quoi? Sur cette attitude, ce que ça révélait au fond de l'individu aujourd'hui?
Alors pour moi, le selfie, c'est une porte qui s'est ouverte sur un monde énorme, dont je me suis saisie en tant que philosophe. Et j'ai essayé de comprendre en quoi ce rapport à l'image pouvait être aujourd'hui emblématique. Et j'ai établi une véritable réflexion qui me permet de penser le virtuel, donc la virtualité, le passage entre le monde réel et le monde virtuel qui se fait le temps d'un clic, et les métamorphoses, les changements paradigmatiques que cela implique, notamment notre perception du temps et de l'espace, et également notre rapport à la communication qui ne se fait plus de manière aussi évidente par le langage, mais surtout par l'image.
Et il y a tout ça derrière le selfie, bah dites donc.
Exactement.
On se doutait pas qu'en
justement.
Positionnant l'appareil devant soi, on pouvait en tirer autant de réflexions. En tout cas, c'est ce que vous déroulez au fil de ce livre. Pour illustrer justement votre sujet, vous connaissez cette chanson de Stromae qui s'appelle Carmen?
Oui.
Eh bien, la voilà.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à
Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette chanson de Stromae, oui. Elsa Godard, justement pour dérouler le fil de votre pensée. Alors, vous dites d'abord que le selfie, c'est un phénomène qui est lié à une révolution technologique, évidemment. Hein, c'est oui. celle de notre humanité 2.0, avec l'importance des réseaux sociaux. C'est même une nouvelle forme de pouvoir, selon vous ?
Oui, on parle de self-branding ou d'auto-branding, d'auto-promotion de soi. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on est devenu média. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Quelqu'un qui veut faire la promotion d'une chanson, il se met sur YouTube. De la même manière, pourquoi ne pas lancer un livre sur YouTube sans passer par d'autres médias ? On est devenu un média et on fait la promotion de soi-même, en fait.
Donc, ce sont des canaux alternatifs qui nous permettent de prendre le pouvoir. Il y a cet objet, la perche à selfie, aujourd'hui aussi, qui est très symbolique.
C'est terrible. Hein. Là, je me suis amusée à faire un écho avec Aristote. Prolongement de la main, sauf que pour Aristote, le prolongement de la main, c'est le prolongement de la raison.
Hein. C'est vrai. Et là, c'est pas le cas.
C'est la machine a pris le pouvoir sur l'esprit, on pourrait dire.
Ouais, ça a complètement modifié nos modes de vie et cette notion même d'espace-temps.
Oui.
C'est ce que vous racontez.
Oui, effectivement, puisque aujourd'hui, par le biais du virtuel, je prends comme exemple Skype, hein, le lointain est devenu le proche. Aujourd'hui, on peut gérer toute une organisation d'une réunion avec 10 000 personnes sans bouger de son siège. Et surtout, le rapport au temps, c'est-à-dire qu'on est dans un présentéisme extrêmement puissant, où c'est ce que j'ai appelé le rapport de l'ici et maintenant, de l'ic et nunc, tout de suite, l'instant du clic, qui est aussi l'instant du caprice, l'instant de l'immédiateté et de l'urgence, pour reprendre aussi des termes qu'on connaît en médecine, avec cette précipitation permanente qui nous donne le sentiment qu'on n'a plus le temps de vivre, ni de se poser, et notamment de poser le temps nécessaire à la pensée.
En 2012, il s'est pris 850 milliards de photos, des images instantanées évidemment et éphémères. Nicolas Dubreuil, justement, alors ça c'est très marrant parce que vous en parlez dans votre livre, à quel point justement le monde des réseaux sociaux s'est totalement intégré à la population du Groenland, mais très vite, très tôt, bien avant nous même quasiment.
Ah bah bien avant nous, puisque ça a été le premier pays au monde à avoir eu Internet par satellite dans le moindre village. Et alors, les selfies, c'est très drôle, parce qu'effectivement, moi j'ai été... quand on partait à la chasse à l'ours, on avait tué un ours, c'était rentrer au village tout de suite pour que ça soit
dépecer,
la fête, pour dire le dépecer, puis que tout le monde soit heureux. Et là, j'ai vécu une chose, c'était vraiment le traîneau est parti, au lieu de rentrer au village, on partait vers l'est, je comprenais pas, j'attends. Au bout de 2 heures, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout? Et finalement, on arrive à une montagne, on s'arrête là, donc j'ose pas demander, bon, je vais avec tout le monde monte en haut de la montagne, et je dis, mais pourquoi on ne rentre pas là? Et en fait, tout parce que en haut de la montagne, on pouvait capter un bout de réseau.
Oui.
Il le savait et que le premier truc que tout le monde a fait, c'est envoyer sur Facebook le selfie avec l'ours tué et soi et pour dire attention, on arrive.
Voilà, c'est extraordinaire quand même cette anecdote. Elle dit absolument tout de ces mutations qui se sont infiltrées dans tous les villages, les plus lointains, et au contraire même. Hein, parce qu'on a besoin de communiquer.
Plus,
alors justement, c'est très emblématique, merci pour tous ces exemples. Vous parliez du pigeon tout à l'heure, hors antenne, mais peut-être que vous en parlerez tout à l'heure aussi. C'est très emblématique parce que ça dit deux choses, en fait, ce genre de choses. Non seulement ça nous met à distance de l'instant réel, on prend pas le temps de le vivre pleinement et de le savourer intrinsèquement, presque intérieurement, dans une communion de partage in vivo. Et d'autre part, ça nous rappelle aussi la notion d'isolement. Parce que finalement, il faut pas oublier que les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'une communauté. Alors l'illusion entre guillemets, parce qu'elle est quand même réelle entre guillemets, mais elle n'est pas présente dans cette réalité-là. Et alors là, votre exemple est emblématique parce qu'il nous coupe de ce que l'on vit dans l'instant.
Oui, mais est-ce que
pour nous mettre
à
distance de cette réalité et nous isoler d'une certaine manière.
Sauf que est-ce que d'une certaine façon, justement, on ne casse pas l'isolement parce qu'on le partage avec plus de monde et on ne prolonge pas le moment puisque justement il va se diffuser et qu'on va pouvoir le commenter, le partager sur ces réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, mais dans l'après-coup. Et pas dans le moment où on le vit. Peut-être faudrait-il, avec prudence et raison, pour employer des termes éthiques, cher à Aristote encore une fois, mais peut-être faudrait-il vraiment s'intensifier du vécu, de l'instant, de le vivre pleinement, de le partager. Puis dans ce que vous évoquez, on change les traditions aussi. Hein.
Complètement.
C'est pour ça que je parlais de révolution dans mon livre, voire même de métamorphose. C'est la mort de quelque chose et la naissance d'autre chose. Et c'est très important socialement et individuellement aussi, collectivement. Moi, je pense qu'il y a à la fois ce partage mais qui reste une distance, on traverse pas les écrans à ce moment-là, et qui nous donne l'illusion d'une communauté, j'emploie le terme d'illusion, mais entre guillemets, parce qu'effectivement elle est néanmoins présente.
Nicolas Dubreuil.
Alors, en fait, moi je voulais poser une question à Elsa, parce que je me demandais s'il n'y avait pas une façon, en tout cas pour les Groenlandais par exemple, de dire aux autres, voilà comment on est, tout simplement. C'est la réalité de la chose aussi. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive sur mon profil Facebook. Je me retrouve régulièrement avec des photos de moi avec des ours morts. Qui au Groenland, ça passe. Ah bah ici c'est un super chasseur. Il s'est découpé un ours.
Et ici,
évidemment, ça déclenche des scandales pas possibles. Quoi.
Alors c'est très important parce que dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a la question de la reconnaissance et c'est aussi un acte selfie qu'on pourrait dire. C'est-à-dire la question j'existe par le biais du témoignage de l'image.
Bah cette crise de la célébrité dont vous parlez, hein, il y a ça aussi.
Tout à fait. Ouais. C'est le quart d'heure de gloire. Là, c'est le clic de gloire d'Andy Warhol revisité. Mais dans ce que vous témoignez aussi, c'est le relativisme du message envoyé. Et j'ai consacré un chapitre sur l'intention potentielle de ce que pouvait être le fait de faire un selfie et de l'adresser, parce qu'il est toujours à l'adresse de quelqu'un, même si ce quelqu'un, c'est le réseau social, aussi vaste soit-il. Mais il s'adresse à quelqu'un, il n'est pas jeté dans le vide. Et effectivement, l'interprétation est toujours relative à une époque, à une culture, à une société, à un contexte.
Alors, il y a quand même l'idée aussi d'une expression artistique, hein, vous le dites aussi, ça peut être une œuvre d'art, un selfie, on expose aussi ces selfies aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs,
aujourd'hui,
à Lyon, il y a une exposition sur les selfies jusqu'en juin, absolument. Il y a de plus en plus de musées qui consacrent des rétrospectives aux selfies. Alors, de là en faire une œuvre, une manière de faire de l'art à part entière, c'est un peu compliqué pour l'instant de le dire. En tout cas, il y a des efforts, il y a de la production esthétique et artistique en ce sens.
En tout cas, c'est une véritable révolution éthique aussi, hein, apparemment.
En tout cas, c'est ce que vous nous dites. On parlait des enfants tout à l'heure. Moi, je parle de la génération qui n'a jamais connu le monde avant Internet. Donc, j'ai aussi un petit garçon de 18 mois maintenant et qui manipule ça avec moi. Ça m'effraie en tout cas parce que c'est quasiment intuitif à tel point que voilà, il n'y a pas de maîtrise. Et je pense qu'il est important de réfléchir sur ce phénomène.
Ne soyez pas effrayé. Vous allez transmettre votre peur à votre enfant.
Non. Je suis effrayé par la facilité avec laquelle il manipule cet objet-là et à quel point c'est simple pour lui. Et je pense qu'établir une éthique, ce que j'appelle une éthique du virtuel dans ce cadre-là, me semble fondamental.
Bon, il y a toute l'expression d'une nouvelle vision du monde aussi,
hein, évidemment,
une belle au travers.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Voilà, ben on peut dérouler toute une pensée autour de ce phénomène étonnant qui nous concerne tous, je pense, le selfie. Je selfie donc je suis, c'est aux éditions Albin Michel, Elsa Godard. Allez, dans un instant, on part justement au Groenland avec vous, Nicolas Dubreuil. Il s'appelle Akago, c'est un livre chez Robert Laffont qui raconte votre vie dans le Grand Nord. À tout de suite. Avec Only à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Oh, ça fait du bien ça!
avec Mathieu Vidard.
On va vous escorter, c'est plus prudent. On les escorte, on y va, on les emmène.
Sur France Inter.
Bonjour, bienvenue à Couche-Lorsoirc, par 75 degrés de latitude nord, le village le plus extrême du Groenland. Des températures entre moins 45 là au mois de février à maintenant une température extrêmement clémente pour la région, moins 18. Et c'est là où j'habite. Évidemment, j'aurais bien aimé vous montrer une tempête, mais bah, là, pas de bol, il fait grand beau. Et je vais vous laisser parce que on va partir sur la banquise, là derrière moi. Je sais pas si vous voyez bien. On va aller faire des photos d'ours polaires.
Voilà, la vie à Couche-Lorsoirc.
Pas mal.
Ah, j'ai répété pour vous accueillir, Nicolas Dubreuil. C'est mon premier mot groenlandais. Enfin, c'est un dialecte, hein, justement, parce que
c'est
là, vous êtes dans une région où on parle. Quel dialecte exactement?
On parle carrément le Couche-Lorsoirquien, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est vraiment le nord du Groenland.
Vous le parlez couramment maintenant?
Plus ou moins, oui. Après, discussion philosophique, c'est un petit peu complexe.
C'est vrai. Sur votre passeport, qu'est-ce qu'il est écrit? Explorateur ou pas?
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur mon passeport? J'en sais rien.
Métier de Nicolas Dubreuil.
Ah ben, sans doute alors. Oui, c'est explorateur. Je trouve ça très joli et très poétique.
Spécialiste du monde polaire et vous avez à votre actif une centaine d'expéditions et donc vous publiez avec le journaliste Ismaël Khelifa Akago, ma vie au Groenland chez Robert Laffont. Akago, ça veut dire quoi?
Alors, Akago, ça veut dire demain. Et c'est tout le symbole est là, c'est-à-dire que pour les peuples de l'Arctique, on raisonne pas à 5 ans à l'avant, après, ou 5 ans à l'avance, 6 ans à l'avance, 10 ans, ou en 2 jours, il y a que demain. Il n'y a rien pour dire plus loin. On dit que Akago, et Akago c'est juste demain. Uh-huh. Et demain, c'est déjà pas mal d'arriver à demain.
Ouais. Alors c'est une façon de rester dans l'instant présent, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Elsa Godard. On parle beaucoup de chasse à l'ours avec vous, de pêche également.
Oui.
Il faudra emmener Francine Leca pêcher à la mouche au Groenland.
Ben on en parlait, la lombe arctique. C'est une très belle pêche.
On va faire un échange. Oui.
C'est votre passion, Francine Leca, c'est vrai.
Hein. Oh, oui, j'aime beaucoup.
Bon, ben là, qu'est-ce qu'on pêche alors chez vous?
De l'omble arctique à la mouche, et parce que le flétan à la mouche, ça va être un peu compliqué.
Ouais. Vous avez une maison alors dont la photo se trouve dans ce livre, puisque vous racontez votre vie dans ce village. Je pense qu'on peut pas trouver plus perdu. Hein. A priori, vous avez choisi le plus compliqué.
C'est le plus difficile d'accès.
Il faut prendre combien? 4 avions, c'est ça, avant d'y arriver?
Ouais, car par les bons jours, c'est 4-5 avions, plus 1h30 d'hélicoptère, donc il faut compter une semaine quoi pour arriver.
Il y avait la petite maison bleue adossée à la colline. Hein, on en parlera peut-être avec Maxime Le Forestier, qui sera d'ailleurs l'invité lundi de l'émission pour parler de la voie. Mais vous, c'est la petite maison rouge adossée au rocher.
À la banquise.
Et à la banquise, oui. Vous avez une vue extraordinaire. Décrivez-nous le paysage que vous voyez depuis chez vous.
Quand tu ouvres la fenêtre, devant, j'ai les chiens, il y a 25 chiens.
C'est votre 4x4, quoi, en gros.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour se déplacer. Et ensuite, la banquise à perte de vue avec les icebergs qui sont bloqués comme ça dans les glaces.
Ouais. Comment vous avez eu l'idée d'arriver là-bas, alors?
Oh, c'est compliqué. Je pense que c'est un cheminement d'abord intérieur. Moi, je suis parti, j'avais 20 ans, les premières explorations que j'ai faites, les premières expéditions, à 20 ans, on part, c'est pour épater les filles. C'est de l'ego, c'est juste pour montrer qu'on est le plus fort.
Ouais.
Et puis après, ça se transforme, ou pas, mais en tout cas, pour certains, ça se transforme. On y va pour les paysages, pour les animaux. Et puis, pour moi, en tout cas, ça a été... l'ultime, c'était tout d'un coup, j'ai découvert les hommes qui étaient là-bas. Et là, pour moi, ça a été un choc. Je suis tombé en amour de ces peuples qui sont là-bas, sans les déifier pour autant. C'est-à-dire, c'est pas le mythe du bon sauvage qui connaît tout, qui a réponse à tout, à nos problèmes, etc. Mais c'est, disons, une philosophie de vie qui est très, très agréable.
C'est quoi cette philosophie? Alors, c'est la philosophie de l'intensité aussi, visiblement, puisque tous les sentiments ont l'air très exacerbés, en tout cas là-bas.
Oui, tout prend une dimension beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une nature qui pardonne rien et qui force à l'adaptation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, Darwin disait ça beaucoup mieux, je vais juste paraphraser Darwin en disant que c'est pas l'espèce la plus forte ni la plus intelligente qui survivra, c'est celle qui s'adapte le mieux. Et là, tout d'un coup, on se retrouve confronté à un peuple qui s'est adapté à des conditions incroyables. Nous, on cherche toujours à modifier notre environnement, eux jamais. Ils ne font que s'adapter à leur environnement.
Elsa Godard.
C'est peut-être parce que c'est justement beaucoup plus difficile que ça prend une valeur d'autant plus grande.
Voilà.
Et une intensité qui va avec.
C'est parce que la vie est tellement dure. Je veux dire, vivre là-bas, vivre. C'est-à-dire, vous venez chez moi, je vous invite là, je vous laisse les clés, vous passez 15 jours chez moi. La vie, C'est tout. Et déjà très difficile. Il fait moins 40, il fait moins 50. C'est des températures extrêmement basses. Il faut aller chercher du pétrole, il faut aller chercher de l'eau. Il faut chasser, il faut revenir. La vie simplement est difficile. Donc on ne va que à l'essentiel.
Il faut chasser l'ours pour manger chez vous, c'est ça?
Ah ben sinon, oui, tu ne vas pas manger des carottes.
Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette du Groenlandais?
Ah ben du phoque, du gras de phoque.
Et on mange tout, on mange tout.
Les yeux, tout. De l'ours, du narval.
On boit du sang.
On boit du sang, oui.
Vous n'avez pas de chocolat?
Alors, vous savez ce qu'il y a?
Il y a des Haribo.
Il y a des Haribo.
Il y a des Haribo.
Il y a des Haribo au magasin.
Par des rayons de Haribo.
Il y a des rayons de Haribo.
La fraise Tagada est arrivée au Groenland.
Ah oui, et fait un succès terrible.
C'est quand même fou,
avec
ça.
Les chasseurs.
Qu'est-ce que ça dit aussi de cette société, pour le coup?
Ah bah, c'est une société qui aime le sucre.
Le doux, le sucre, quand c'est rude, c'est...
Oui, ça adoucit les choses. Et puis après, ils sont toujours persuadés que c'est énormément d'énergie. Je suis parti une fois à la chasse avec un chasseur. Il avait emmené exclusivement que du sucre.
Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de pathologies cardiaques là-bas ou pas? Francine Leca, le régime carné à ce point, c'est bon pour le cœur ou pas?
Les malformations, parce que moi je m'occupe essentiellement des malformations de naissance des enfants, c'est intéressant de voir qu'à travers le monde, c'est partout pareil. C'est 8 pour 1000, vous voyez, il y a des chiffres très scientifiques.
Pas de disparité selon le lieu?
Non, à ma connaissance, non. Mm-hmm. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une enquête poussée qui a été faite au Groenland, mais probablement, 8 pour 1000, ça fait presque 1%. Vous voyez que c'est une pathologie qui est loin, loin d'être exceptionnelle, comme on pourrait le penser.
Nicolas Dubreuil, vos premières tentatives de socialisation, apparemment, c'était quand même coton, hein, avec les habitants de Kuchlorsquark.
Oui, alors, ce coton, oui, effectivement, c'est dur. C'est-à-dire que la vie est dure. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est quand justement j'ai acheté cette maison, j'ai voulu la réparer. Et pour la réparer là-bas, je voulais la réparer comme un Groenlandais. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, il faut faire avec ce qu'on trouve dans les poubelles ou ce qu'on achète à d'autres gens, etc. Et moi, j'ai acheté à un moment 10 planches de contreplaqué gigantesques. Et j'ai des amis très chers là-bas. Et je devais transporter ces planches dans la neige d'un bout à l'autre du village, sur le dos. Et eux, je les voyais, ils étaient tranquillement et ils regardaient en fumant leurs cigarettes. Et puis, à chaque fois que je passais devant eux, ils me disaient, ça a l'air dur, hein, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis arrêté. Je me dis, c'est pas possible. Il y a pas quelqu'un. Vous n'allez pas venir m'aider, là? Et puis, si tu veux, on t'aide. Mais tu sais, ici, on n'aide pas les gens parce que aider quelqu'un, c'est l'humilier en lui montrant qu'il n'est pas capable de faire les choses. Ouais. Et puis le deuxième truc extrêmement sensé, et qui dit, de toute façon, si tu n'arrives pas à te débrouiller tout seul, c'est que tu n'as rien à faire là.
bon, c'est clair.
C'était clair.
Est-ce que vous leur avez dit la même chose quand ils sont arrivés en France, vos copains groenlandais? Parce que vous les avez fait venir en France.
J'ai été beaucoup plus sympa.
Quand ils sont arrivés dans le métro, par exemple, ou sur la dune du Pila.
Mais alors justement, j'ai été beaucoup plus sympa pour une chose qui est terrible, et je rejoins sur un peu justement le côté internet, selfie, etc., Facebook, c'est que eux, donc, ils sont extrêmement connectés, ils sont connectés déjà pour se retrouver entre eux, c'est la plus grande île du monde, ils sont 56 000, donc c'est rien du tout, mais ils sont très séparés, donc ça les aide à se regrouper. Et le problème, par contre, c'est que ils nous voient, ils nous connaissent par internet, par les médias, et donc ils ont une super mauvaise image de nous, puisque quand ils entendent parler de la France, par exemple, c'est parce que la France refuse la chasse au phoque, la France refuse la chasse à l'ours, etc. Et quand ils sont venus en France, le premier truc ils m'ont dit, parce qu'ils avaient la peur, hein, ils n'avaient jamais quitté le village, jamais quitté le village. Ils avaient peur, ils avaient une vraie peur, et ils me disaient, on va passer pour des Inupiluk, c'est-à-dire, Inupiluk, c'est un très gros mot en groenlandais, ça veut dire les gangsters. Et ils avaient peur que dans la rue, eh bien, on leur jette des pierres parce que on les reconnaisse comme des chasseurs de phoques. Et donc voilà, ils étaient très troublés, ils avaient très peur. Et ce qui les a rassurés, c'est de faire. Alors je reviens sur les selfies, ça c'était incroyable pour moi parce que je les emmène visiter Paris, on fait tous les beaux monuments de Paris et eux ils se prenaient toujours en photo tout seuls, mais devant je comprenais pas devant quoi ils se prenaient en photo. Et à la fin j'ai regardé toutes leurs photos et ils se faisaient des selfies. Et je disais, mais pourquoi il y avait toujours des pigeons derrière? Je disais, mais vous avez pris que des photos de pigeons? Il me dit, oui, c'est le seul animal qu'on ait vu ici.
Comme quoi, l'identification, ça marche en selfie.
Très vite, pour terminer, Brigitte Hermelin.
Les enfants de mécénat, c'est le Stade de France. Hein. Il y a un truc qui est universel, c'est le foot.
Ça. Ah oui, voilà. C'est vrai.
Ils ont chassé le pigeon à Paris ou pas, vos copains groenlandais?
Non, je les ai retenus.
Bon, ça va. On retrouve vos aventures, ma vie au Groenland, à Kago. C'est chez Robert Laffont avec Ismaël Keïfa, Nicolas Dubreuil. Merci beaucoup d'être venu. Francine Leca, merci beaucoup. On peut retrouver l'adresse, toutes les coordonnées du site de Mécénat Chirurgie Cardiaque sur le site de la Tête au Carré pour vous aider, pour trouver des familles d'accueil. Et puis Elsa Godard, on peut lire « Je selfie, donc je suis ».